Mes chers amis, bonjour. Ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien. Surtout, accrochez vos ceintures. Aujourd'hui, j'ai un épisode très spécial pour vous. Je dois vous dire que j'étais un peu impressionnée et surtout que j'avais très envie d'avoir cet invité depuis fort longtemps. Il n'est pas facile à avoir et même pour la petite anecdote, on a fait une interview un peu plus courte que d'habitude parce qu'il avait rendez-vous avec un ministre juste après. Et donc, il a dû malheureusement nous quitter un petit peu plus tôt. Cette personne que j'admire énormément, c'est Nicolas Dufour, qui est le président de la BPI, vous savez, la Banque Française d'Investissement. Cette banque dont la mission est vraiment de réindustrialiser la France, de rendre le dynamisme entrepreneurial français plus performant, plus percutant, plus fort, tout simplement. Ce que j'aime avec Nicolas, c'est qu'il a des valeurs, mais que je trouve honnêtement exceptionnelles. C'est vraiment quelqu'un qui a une mission de vie, de rendre la France plus dynamique, de rendre le courage en français, de détruire la peur, comme il le dira dans cet épisode. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout, je pense qu'il pourra peut-être faire chavirer quelques cœurs. Moi personnellement, j'ai déjà envie de faire une V2. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est le cas pour vous aussi. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le faire un petit mot à Nicolas Dufourcq sur LinkedIn si c'est le cas, ou à suivre les différents médias de la BPI. Je suis sûr qu'ils seront très contents. Je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne écoute, un très bon visionnage. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Dufourcq. Nicolas, je suis enchantée, je suis impressionnée, je suis assez émue de vous avoir. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous avoir sur le podcast, ça va passer très vite. J'ai plein de questions pour vous. Vous avez commencé par me dire que votre mission, c'est de détruire la peur. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voulez dire par là ?
Oui, en effet, je pense qu'il y a une très grosse partie des Français qui, manque de confiance en eux-mêmes, par peur en fait, hein, la grande maladie qui traverse toute la France depuis toujours, passent à côté de leur vie en fait, hein. Et donc vont suivre un certain nombre de parcours stéréotypés, bon, qu'on leur a inculqué et qui les rassurent et qui font que souvent à 40 ans ils sont déjà dans le regret. Sauf que 40 ans c'est jeune, il reste 25 ans de vie professionnelle. Il y a beaucoup beaucoup de Français qui ont des longs regrets, hein. Voilà, donc le rôle de la BPI, hein, que je qualifie d'éditeur d'entrepreneur, moi j'aime bien dire ça.
Éditeur d'entrepreneur.
Ouais ouais, c'est de dire aux entrepreneurs, c'est de dire aux gens, il y a une fibre entrepreneuriale chez vous. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise, mais en tout cas là où vous êtes, vous pouvez être créatif, vous pouvez être fécond. Vous pouvez faire des pas de côté, de toute façon vous êtes protégé. Donc soyez libre.
La liberté, ça c'est aussi un sujet qui me tient à cœur et c'est drôle parce que je pense que beaucoup de personnes, comme vous le dites, n'osent pas être libres par peur.
Oui.
Et on se dit souvent que les entrepreneurs sont les seuls qui ont le droit de s'autoriser à être libres. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression que dans votre discours et la mission de la BPI, on ne s'adresse en réalité pas qu'à des entrepreneurs. On s'adresse de manière beaucoup plus globale à des personnes qui pourraient, par une contribution individuelle, par la contribution dans leur travail, finalement, essayer de réindustrialiser, d'innover, d'avoir un esprit d'entreprise. Mmh. C'est quoi cet esprit d'entreprise pour vous ?
Bah, il y a un très beau livre de La Boétie qui s'intitule Discours sur la servitude volontaire, d'accord? Et moi, je pense qu'il faut écrire le discours sur la liberté volontaire. Parce que la liberté, c'est une volonté. Elle tombe pas du ciel. Il faut la décider. Et je pense que dans notre société, les sociétés européennes d'ailleurs de manière générale, hein, qui ont été éprouvées par tant d'épreuves et de guerres, etc., l'éducation à la volonté d'être libre, c'est un peu perdu. Et c'est ça qu'il faut redresser, parce qu'à la fin des fins, quand on essaie de comprendre pourquoi l'Europe croît de 1 ou 1,5% alors que les États-Unis croissent de 3% ou 3,5%, la différence entre les deux, c'est la culture de la liberté, hein, cette espèce de légèreté dans la liberté, voilà. Et donc je pense que c'est un combat à la fois opérationnel, puisque derrière tout ça, il y a une boîte à outils énorme, hein, à la BPI pour accompagner ceux qui ont fait ce choix de liberté, mais c'est aussi un combat spirituel finalement, hein, voilà. Raison pour laquelle d'ailleurs on fait autant d'événements, autant d'interventions, autant de prises de parole, pour laquelle je suis avec vous ce matin, parce que ça passe beaucoup par la maïeutique quand même tout ça, hein. Il faut expliquer, parler et puis peut-être qu'un jour quelqu'un qui m'aura entendu ce matin se dira mais il a complètement raison, après tout j'y vais quoi.
Pourquoi pas moi ?
Ben voilà.
Nicolas, est-ce que ça passe aussi beaucoup par l'éducation ? Parce que j'ai quand même le sentiment que une fois qu'on est rentré dans un système, et moi-même étant ancienne bonne élève, je sais ce que c'est, où j'essayais de bien faire, mais du coup, j'étais pas très libre dans ma tête. J'ai fait plein de grandes études, etc. Et en fait, je traçais ma route sans trop me poser de questions. Mais je me rendais pas compte que j'étais pas très libre. Et finalement, c'est un jour où j'ai eu un échec, où je me suis complètement remis en question, parce que je me suis dit, mais finalement, si j'ai cet échec, c'est aussi l'occasion de repartir de zéro. Et c'est là que j'ai créé mon entreprise. Tout ça pour vous demander, donc, si vous pensez que l'éducation dès l'enfance, mais ensuite, bien sûr, la maïeutique dont vous parlez plus tard, peut jouer un rôle, justement, sur cette création d'esprit d'entreprise et de liberté.
Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut dire aux gens que très peu d'échecs sont graves. Très, très peu. Il y a d'ailleurs, honnêtement, dans nos vies ultra protégées, très peu de choses qui sont vraiment graves.
Hein. C'est bien de le rappeler.
Ben oui, très peu de choses sont graves. Voilà. Et quand c'est grave, c'est très grave. Mm. Voilà. Et donc c'est le décès, quoi. C'est tout. C'est le bon. Et donc il faut vraiment dénouer toutes ces peurs. Il faut vraiment dénouer toutes ces peurs. Enfin, je veux dire, il faut se mettre en mode même pas mal, quoi. En mode pourquoi pas, en mode même pas mal. Et ceux qui le font. Incroyable les succès qu'ils ont. Le thème cette année de la BPI, chaque année la BPI a un thème, hein, c'était la fierté. Et la fierté, c'est effectivement ce qui donne du courage, c'est la confiance en soi qui donne du courage. Le courage donne de la chance, la chance donne du succès. Voilà. Donc confiance en soi donne du courage, qui donne de la chance, qui donne du succès, qui alimente le courage, qui redonne de la chance, qui redonne du succès, et c'est une boucle vertueuse. Voilà. Donc, derrière la question du rapport à la peur, il y a la question du courage aussi. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a assez d'éducation du courage? C'est ça la question que vous posez en réalité, en France en particulier, et en Europe plus généralement, parce qu'il faut jamais oublier qu'on fait partie d'un très grand pays qui s'appelle l'Europe. Je pense qu'on peut progresser dans l'éducation du courage, en effet.
Nicolas, j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Pourquoi cet amour de la liberté, cet amour du courage, ces valeurs? Est-ce qu'il y a eu un moment fort? Est-ce que c'est une éducation? Qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes autant investi d'une mission? Parce que aujourd'hui, sincèrement, je trouve que vous faites figure pas d'ovni dans le monde politique, mais c'est vrai que on sent en fait vraiment que vous portez très fort ces messages. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça me parle. Et je voulais savoir d'où venait finalement cet attachement et cette mission.
Je sais pas, c'est l'enfance, hein, probablement. Je ne sais pas. Hein, donc on peut faire de la psychologie. Il se trouve que jusqu'à 15-16 ans, j'étais très 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 asthmatique. Moi, j'étais dans l'étouffement. J'étouffais d'une façon pneumatique, on va dire. Hein. Donc je manquais d'air, tout simplement. Et quand vous avez vécu ça, et qu'en fait vous l'avez vécu, parce que quand vous savez à quel point les enfants sont courageux, hein, incroyable. Vous avez juste envie d'un monde aéré, quoi. Hein. D'un monde pneumatique. Je pense que ça vient de là.
J'aimerais aussi parler de votre livre, La désindustrialisation de la France. Alors, c'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que je vous ai dit que moi aussi, je fabrique en France. Et pour moi, en fait, la fabrication française et de manière générale, l'industrie sont des sujets. Et j'étais tellement heureuse quand j'ai vu que la BPI s'en emparait, qui sont des sujets en fait qui manquaient à un moment donné dans l'univers médiatique. Une phrase que j'ai lue de votre part, c'est « les plus belles carrières de demain seront dans l'industrie ». Et ça, j'aime beaucoup cette phrase, parce que je trouve qu'elle va contre des idées reçues. On se dit que l'industrie, c'est le monde du passé, c'est la nostalgie, on a même des images d'Épinal un peu minières, etc. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous voulez dire « les plus belles carrières de demain seront dans l'industrie »
Ce que je dis aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui peut-être, hein, c'est que évidemment, ils ont tous des flashs lumineux qui sont la traduction, un peu comme sur la caverne de Platon, de ce qui brille en ce moment. Hein. Or, quand ça brille, c'est que c'est déjà encombré.
J'aime beaucoup.
Et donc vous laissez pas faire, quoi. Vous laissez pas influencer. Il y a un truc qui brille pas trop et dans lequel c'est pas du tout encombré parce que tout le monde a besoin de vous. C'est l'industrie. Et donc c'est tout. C'est l'offre et la demande. L'offre est faible, la demande de la part des entrepreneurs est considérable, et donc les progressions de carrière seront extrêmement rapides, les salaires sont bons, et puis par ailleurs, c'est un grand kiff quand même l'industrie. Parce que vous êtes, enfin, certains entrepreneurs me l'ont dit, c'est un jeu d'échecs à trois dimensions. C'est beaucoup plus compliqué qu'une start-up digitale.
Ça, je vous garantis que dès qu'il y a un produit physique...
On est d'accord. Ouais. Dès qu'il y a un produit fini avec de la supply chain, des interdépendances avec des fournisseurs français ou étrangers, des sujets
d'expédition, de délai,
de cartons qui arrivent pas, de clients qu'on peut... Enfin, donc c'est très complexe. Ouais. Très, très, très complexe. Hein. Donc passionnant. Il y a sans cesse des sujets... intéressant à traiter, des problèmes à régler, et donc à la fin de la journée, un sentiment d'utilité incroyable. Hein.
Et pourquoi cette désindustrialisation de la France ? Alors, j'ai pas envie qu'on batte en revue tout votre livre, hein, mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer les causes, selon vous, qui ont mené, en fait, à cet état que vous citez dans le livre ?
Ben, elles sont multifactorielles, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est que, fondamentalement, progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, tout s'est mis en place pour que la société française fasse le choix collectif d'abandonner son industrie. Hein. Et donc, il y a eu des courants idéologiques très profonds qui remontent, en fait, même au début des années 60, autour de l'économie de l'école de Jean Fourastier, sur l'idée qu'une société peut être une société de service, et au fond, expulser son industrie qui ira quelque part. À l'époque, Fourastier pouvait pas prévoir qu'elle serait chinoise, hein. Mais c'est quand même ça qui s'est produit. On a voulu penser qu'on pouvait être une société uniquement féconde et qui ferait du design et du dessin et que des gens, dans la planète quelque part, feraient le job de l'industrie, et que ces gens d'ailleurs ne montraient pas en compétences, en qualité et en fécondité, en créativité, qu'ils seraient éternellement à notre disposition. Donc c'est une vision du monde qui était, mais elle s'est imposée, cette vision-là, hein, naïve en réalité, hein, et un peu arrogante aussi. Ouais. C'est-à-dire que le chinois ne sera jamais bon. Bon, évidemment, au bout de quelques années, le chinois est devenu meilleur que nous. Et donc il y a ça, il y a le fait que une campagne on va dire médiatique au sens très large du terme, contre l'industrie s'est construite sur l'idée que c'était sale, que ça licenciait, que c'était l'aliénation. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu des profondeurs de la gauche française, hein. Et puis ensuite il y a un certain nombre de mesures politiques qui ont été prises, le déplafonnement de l'ISF qui a tué toute une génération d'entreprises familiales de l'industrie, les 35 heures qui ont été mises en œuvre le 1er janvier 2002, 15 jours après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, hein. Voilà, donc bon, la Chine rentre le 15 décembre 2001 et le 1er janvier 2002 la France désarme.
Et les Chinois ne sont pas aux 35 heures.
Et les Chinois ne sont pas aux 35 heures. De toute façon, vous regardez la courbe de la désindustrialisation de la France et vous la calez sur la courbe de la baisse de la quantité de travail des Français. Et c'est la même. Hein. Donc la désindustrialisation commence, en fait, pratiquement en 1982, avec la cinquième semaine de congés payés et les 39 heures. Je dis pas qu'il fallait pas les faire, mais il fallait mesurer la conséquence. Mmh. Il fallait pas se dire que, même pas mal, il y aura pas de conséquences. Il y a toujours des conséquences dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, si on avait mesuré ça, on aurait pris des dispositions. Par exemple, on aurait créé la BPI en 1982, et pas en 2012, 30 ans plus tard. Je dis pas que c'est trop tard, hein, mais entre-temps, le prix à payer par la société française a été considérable.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui disent « en tout cas, c'est trop tard, maintenant, les jeux sont faits, si vous voulez ».
Non, ça c'est jamais vrai.
Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui disent « mais en tout cas, la Chine est irrattrapable, c'est un vivier, les salaires ne sont pas les mêmes, Chine, le Bangladesh, peu importe, alors à la rigueur, quel sera le pays ?»
Non, mais c'est jamais vrai ça, c'est jamais, jamais trop tard. N'importe quelle nation peut s'en tirer, pour peu qu'elle bosse, qu'elle soit solidaire, qu'elle ait un projet collectif, et puis surtout, je reviens au début de notre conversation, que son potentiel soit libéré, quoi. Le potentiel français, il est incroyable. Mais incroyable. C'est-à-dire, et d'ailleurs, le monde entier le sait. Voilà. Prenez la Corée. La Corée, elle avait un PIB par tête inférieur au PIB par tête de la Tunisie, au début des années 50. Donc ce que la Corée, c'est pas la Chine. C'est un demi-pays. Ils ont été coupés en deux, en plus. Et donc c'est un tout petit pays, démographiquement. Ils ont été capables de faire des groupes comme Samsung, qui dominent le monde. Ils ont été capables d'imposer la K-pop, par exemple, qui domine le monde aujourd'hui. Donc la Corée montre que tout est possible. Absolument tout est possible. Voilà. Donc si les Français s'en convainquent, on peut faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, honnêtement, en ce moment, on fait des choses bien. Enfin, qui aurait imaginé il y a 15 ans qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, hein. Et je vous assure, moi je suis souvent à Bruxelles, quand on regarde la France, Bon, on se dit quand même, ce pays, c'est pas n'importe quoi. Hein. Certes, ses finances publiques sont très mal gérées. Ça, on va se le dire. Enfin, bon, c'est pas qu'elles soient mal gérées, mais le choix collectif de la société française, c'est quand même un choix qui pousse à la dépense publique, ça c'est certain. Et c'est dur de gérer ça. Mais pour le reste, c'est un pays qui surprend. Personne n'aurait imaginé qu'on soit capable d'être positionné sur la planète digitale européenne et mondiale comme on l'est, ou dans les industries créatives comme la vôtre, ou même d'ailleurs dans la réindustrialisation.
Une autre idée reçue, je trouve, c'est la tension contradictoire entre réindustrialisation, fabrication et une forme d'écologie. Que je trouve assez complexe, sincèrement, expliquer et à résoudre. Et alors, je me suis dit, j'ai la meilleure personne en face de moi pour m'expliquer et surtout pour parler aux personnes qui sont persuadées que donc l'industrialisation c'est le mal parce que ça pollue, si je le dis avec simplicité. Et ce qui, je pense, est faux personnellement, mais je serais curieuse d'avoir votre point de vue sur ce sujet.
Non, mais l'industrie, enfin, la chance qu'on a, c'est que comme on a des industrialisés, les usines qu'on reconstruit aujourd'hui, elles sautent une étape. Une espèce de gigantesque saut de grenouille, donc on passe au-dessus de l'étape où qui a été l'étape allemande en fait, hein. C'est l'étape d'une industrie qui a couvert tout le territoire allemand avec une énergie qui était le gaz russe. Nous, cette étape, on la saute et on va directement à l'électricité. Donc on fait une industrie électrique, une industrie nativement verte, avec des usines modernes qu'on fait sortir de terre et qui sont construites pour être HQE, des usines d'ailleurs dont je souhaite qu'elles soient belles, entre parenthèses, hein, parce que dans le grand propos qui est le nôtre, il faut qu'on ait une industrie qui fasse monter des objets iconiques dans les territoires et qui donne envie au fond finalement de s'associer à cette nouvelle grande aventure qui est l'aventure du produire en France. Donc tout ça est totalement cohérent, hein. Je pense que les écologistes veulent des boucles courtes aussi, hein. La boucle courte, l'usine électrique qui ressemble à une salle blanche, honnêtement, maintenant, avec des opérateurs, par parenthèse, pas énormément d'emplois, hein, puisque c'est beaucoup d'automatisation, c'est beaucoup de machines, et une usine qui est elle-même un objet iconique dans un territoire beau, bah, je trouve que c'est un beau récit quand même à la fin.
Pour changer un peu de sujet, Nicolas, si vous l'acceptez, j'aimerais bien revenir un peu plus en détail sur votre carrière, parce que ce podcast, c'est aussi un podcast sur des vies, pas que sur des missions. Et une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux que vos parents vous aient transmises? C'est une question compliquée, mais je la trouve toujours assez importante.
Oui. Les parents, c'est deux personnes.
Ouais.
Ils sont très différents.
C'est intéressant justement d'avoir les sommes des deux valeurs.
Du côté du père, c'est la responsabilité, la discipline saturnienne, on va dire. Hein.
Éthique de l'effort.
L'éthique de l'effort, absolument. La persévérance et la résilience, etc., bien sûr. Et du côté de la mère, c'est plutôt toutes les valeurs de Jeanne d'Arc, hein. Voilà, donc le courage, le panache, la transgression, etc.
Ah, une belle combinaison.
Voilà.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes tombé amoureux du monde de l'entreprise, on va dire, du monde des affaires, du monde de l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est arrivé un peu par les hasards de la vie, on va dire, peut-être que c'est de la France?
Je suis tombé dedans à 20 ans, moi.
Et alors, comment ça s'est fait?
Ça s'est fait de manière très simple. Je voulais être éditeur, moi, et je suis devenu éditeur d'entrepreneur, donc tout va bien. Mais je voulais absolument être éditeur d'art, en fait, hein. Je voulais publier des livres d'art. Quand j'avais 17 ans. Et donc c'est pour ça que j'ai fait HEC. J'ai fait HEC parce que je voulais apprendre ce que c'était que créer une entreprise, être un membre. Et puis ça s'est pas fait parce que c'était un tout petit milieu, mais vraiment microscopique milieu, etc. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir, dans la croisée des chemins, soit je sers mon pays, et c'est pour ça que j'ai fait l'ENA, soit je suis entrepreneur. Mais il était hors de question de rentrer chez Colgate-Palmolive, par exemple.
Donc, vous aviez déjà dans cette tête cette dichotomie qui est quand même assez drôle.
Donc, j'ai fait les deux.
Parce que c'est...
À 20 ans, j'ai fait les deux.
C'est ça qui est fou.
Je suis reçu à l'ENA, et pendant l'ENA, j'ai créé 5 PME.
Vous avez créé, mais j'étais pas du tout au courant de cette histoire.
Oui, si, j'ai créé une première PME qui est une PME d'exportation d'affiches d'art françaises aux États-Unis qui s'appelait Grafiska. Et puis après, j'ai créé une deuxième PME qui faisait de la publicité sur le toit des taxis à Paris qui s'appelait Taxipub. Et on a gagné le grand prix de la Fondation Jacques Douce à l'époque. Je l'ai gagné en 86. Et puis ça s'est pas fait parce qu'on a eu une interdiction préfectorale de mettre, c'est comme à New York, hein, ces supports qui ressemblent à des barres de Toblerone sur le toit des taxis, interdiction. Bon. Donc on a fait autre chose. On a créé une PME de plasturgie en Lorraine, à Carlin, qui s'appelait la Société Européenne de Composite, qu'on a vendue. Et puis ensuite, on a créé une nouvelle PME, qui est une PME, rien à voir, mais ça c'était par affinité de l'un de mes associés, qui était une PME qui était à Souillac et qui faisait de la production de foie gras. Ouais, qui s'appelait Canova comme canton, comme la canne Aliénor d'Aquitaine, qui est la sous génétique des cannes qui font du foie gras, donc Canova. Et puis pour terminer, j'ai fait une société de formation professionnelle,
okay,
qui portait le nom de la maison de mon grand-père et qui m'a permis de rembourser toutes les dettes que j'avais contractées pour être un industriel en herbe à 25 ans quand même. Hein.
Mais donc tout ça en parallèle de vos études à l'ENA, par
tout
exemple.
Tout ça en parallèle de l'ENA et l'inspection des finances, oui, exactement.
Donc la discipline paternelle était utile à ce moment-là.
Alors là, j'étais vraiment dans l'écartement des valeurs de mes parents.
C'est incroyable.
Exactement.
Et alors suite
pour moi, tout est possible. Hein.
Bah, c'est, je dois dire que
voilà,
vous êtes donné.
Honnêtement, entre nous, j'aurais jamais pu faire Wanadoo si j'avais pas fait tout ça. Hein. Parce qu'ensuite, je suis rentré à France Télécom. Enfin, j'ai appelé France, le patron de France Télécom en lui disant que je voulais faire Internet chez lui. On était en 1993, hein. Et j'avais découvert Internet aux États-Unis. Et il m'a demandé de venir. Et Michel Bon m'a demandé de monter tout ça, quoi. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu coter Wanadoo pour 20 milliards d'euros en juillet 2000. Donc c'est une aventure entrepreneur extraordinaire, hein, absolument extraordinaire, mais que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été moi-même les mains dans le cambouis de la PME des territoires à 25 ans.
Bah, j'allais dire que l'écartement même entre la PME dans le foie gras à 25 ans et ensuite France Télécom ou la BPI ou je sais pas combien il y a d'employés et de collaborateurs, mais je peux imaginer que c'est pas tout à fait le même chiffre, ça doit être mentalement quand même une petite différence de gestion.
Oui, mais ce qui vous permet de réussir, c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire, c'est la rapidité du jugement et la détermination dans l'action, quand même le courage aussi, hein. L'esprit décisif. Tout ça, c'est ce que vous apprenez sur le champ de bataille entrepreneuriale, hein. Et c'est pas à l'école que vous l'apprenez.
Ça, je veux bien qu'on revienne dessus. Est-ce que vous auriez des exemples où vous pourriez m'expliciter ce que vous voulez dire, ou peut-être via des exemples d'un moment où vous sentez que cet esprit décisif vous a été particulièrement utile, enfin justement en fait, cette conclusion que vous tirez que le succès vient de cet esprit décisif, comment vous est-elle venue?
Bah j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps, hein. Quand vous êtes, vous le savez très bien, c'est votre vie.
Moi je le sais, mais j'ai envie de vous le dire.
Oui, mais c'est ce que je sais de tous les partenaires clients de BPI France, hein. C'est toutes les semaines l'esprit décisif, toutes les semaines. Alors que bon, dans les grands groupes, il y a tellement de monde, on vous demande pas de faire appel à votre esprit décisif tous les jours, hein. Dans la PME, si, tout le temps, hein. Alors parfois c'est dramatique. Je me souviens très bien du coup de téléphone du banquier un samedi matin, me disant qu'il paierait pas les salaires du lundi matin. Et là, vous faites quoi? Vous prenez votre train, et puis vous vous préparez à faire passer un certain nombre d'entretiens le lundi pour expliquer aux jeunes que vous aviez recrutés que vous allez pas pouvoir les garder. Donc c'est très dur, hein. L'esprit décisif, c'est le moment où vous décidez de lancer une nouvelle PME ou de faire une acquisition ou de faire une vente, puis de vous séparer de quelqu'un, c'est tout le temps, hein. Dans la PME, c'est absolument, vous le savez, c'est absolument tout le temps, hein. Mais c'est ça qui fait qu'on adore cette vie là qui est une vie d'une intensité extrême,
parfois un petit peu fatigante.
Oui, il faut bien dormir.
Voilà,
il faut bien dormir.
Nicolas, vous utilisez sans cesse le terme de PME, un terme que j'aime bien, mais malgré tout, il est un peu connoté négativement, un peu vieillot aujourd'hui, et je l'oppose, sans l'opposer, au terme de start-up. Oui. Et alors là, c'est pas facile pour vous, j'en ai conscience, parce qu'en fait, on a envie de valoriser les start-up en France, bien sûr, mais on a aussi envie de valoriser les PME.
Oui.
Et bien souvent, je trouve que ces mondes s'opposent par un certain nombre de valeurs. En quoi est-ce que une PME, c'est cool?
Cool. Non, mais c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a un sujet de désignation. Bon, les startups, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que la BPI ne fait que les startups, les start-tech. Les startups tech, ça représente chez nous, j'ai envie de dire, 10 à 15% de notre action, hein. Et tout le reste, c'est l'entreprise.
Des gens comme nous.
Voilà. Donc l'entreprise, on va dire famille, créée par des fondateurs ou héritée, transmise, familiale, pas familiale, dans les régions, dans les métropoles, enfin toute l'entreprise, toute l'économie, quoi, tout simplement. Mais pas spécialement tech, pas spécialement basket blanche, et pas spécialement digital. Et voilà. Et votre question, c'est ?
Ma question, c'est en quoi est-ce que ces entreprises apporte quand même de la valeur dans un monde où il y a quand même une surmédiatisation du monde de la tech, avec des valeurs de tech qui sont très bien, de croissance, etc., mais aussi un certain nombre de valeurs, notamment sur la dépense et sur la rentabilité, oui, qui sont assez en contradiction avec le monde des PME.
Oui, d'accord, je comprends la question. Donc, il y a quelque chose qui est le... On va rappeler ce que c'est que le capital risque. Le capital risque, ça consiste à projeter un peu comme avec un Karcher. Ceux qui ont utilisé un Karcher sauront à quoi je pense, hein, une espèce de flux de capital extrêmement intense, extrêmement rapide, et en grande quantité, sur une surface limitée, pour faire monter un objet à toute vitesse. Ça, c'est ça le capital risque. Hein? Donc vous avez un projet. Alors c'est pour ça que la technologie s'applique bien à ça. Hein? En plus, elle demande pas mal de capital. Mais vous avez un petit objet et vous mettez énormément de capital dessus pour faire monter très vite. Donc c'est le taux de croissance qui compte, hein, au prix d'un EBITDA négatif important. Mais vous faites monter très vite une entreprise qui ensuite va trouver son équilibre.
On l'espère.
Et à ce moment-là, on l'espère. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à ralentir le jet de capital. Hein, c'est ça le capital risque. Donc ça s'applique très bien au digital, ça s'applique très bien à la biotech, ça s'applique très bien à la medtech, ça s'applique très bien à pas mal de choses en fait, hein. Et c'est vrai que beaucoup de PME industrielles disent, et pourquoi pas nous? Pourquoi cette méthode-là? Pourquoi est-ce que nous, vous nous dites, petit à petit, l'oiseau fait son nid, faites d'abord vos preuves, revenez nous voir, soyez EBITDA positif, et puis on réfléchira. Et je suis d'accord qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'un côté une méthode et de l'autre, un monde auquel cette méthode est interdite. Donc nous avons créé une nouvelle classe d'actifs qui s'appelle le capital risque industriel, hein, qui consiste à dire aux entrepreneurs des PME, on va vous traiter comme les start-upers de la tech. Hein. La contrepartie, c'est qu'il faut croître très très vite. Hein. Donc c'est une espèce de fuite en avant, c'est construire, raisonner, accepter et décider. Donc le capital risque industriel démarre en France. Hein. Et ça, c'est très très intéressant. Hein. Donc c'est avec ça que vous voyez, par exemple, Vercors, la gigafactory de batterie, qui se monte à Dunkerque, hein, après une usine pilote à Grenoble. Bon, bah, c'est des jeunes entrepreneurs. Et ils ont levé 2 milliards. C'est ça le capital risque industriel. Ou bien Aledia, on est en train de construire une usine à Grenoble en ce moment, Grenoble aussi, qui fait des micro-LED. C'est des entrepreneurs qui, c'est pas du tout des familles d'entrepreneurs hérités dans la culture de l'entrepreneuriat familial des territoires, pas du tout. Hein. C'est un, deux chercheurs avec des découvertes qui décident de passer à l'acte industriel. Et sauf que passer à l'acte industriel quand vous faites des micro-LED, ça veut dire tout de suite une énorme usine.
Ouais. Hein.
Et donc, c'est des tours de 500 millions. Voilà. Donc, au fond, la méthode du capital risque californien, par parenthèse inventé par un Français, hein, qui était un général français dans les années 50 en Californie, nous commençons à l'appliquer à l'industrie. Hein. Et celui qui a montré, qui a pointé dans cette direction-là, c'est quand même Elon Musk, hein. Qui a rappelé que on pouvait avoir une approche industrie capital risque et qu'il y avait compatibilité entre les deux univers.
Bon, et par ailleurs, il y a aussi la place pour des entreprises qui sont des entreprises peut-être plus lentes dans la croissance, mais avec de la rentabilité dès le départ, non, on va
bien
dire.
Bien sûr.
Et ça, c'est important pour moi quand même.
Dites-moi. Et je la fais d'autant plus que moi-même, j'en étais pas conscient. La BPI, en 2023, chaque trimestre, elle est soit numéro 1, soit numéro 2 mondial en nombre de deals en nombre de deals d'equity.
Ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas, si, un peu
donc,
quand même.
Donc, c'est monstrueux. Mmh. Et quel deal fait-on ? Eh ben, énormément de deals, comme vous, hein, c'est-à-dire de PME industrielles dans les territoires.
Ouais.
Et je vous fais une deuxième information qui est, quelle est, bon, donc on investit énormément et on vend beaucoup, portefeuille tourne. Quel est le multiple moyen de sortie de la BPI sur les PME industrielles des territoires en 2023? 3,12.
Ouf.
Vous vous rendez
compte? Bravo.
Non mais c'est donc ça donne raison à ce que vous dites.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a le monde gigantesque qu'on appelle tout simplement l'économie française et européenne. Parce qu'il n'y a pas que des start-up, machin, patacoufin, hein. Il y a qui représente encore une fois une minorité.
Mm.
Le monde, le vaste monde de la PME, eh ben c'est un monde ultra constructif, fécond, créateur d'immenses valeurs, et les chiffres que je viens d'indiquer le prouvent.
Ben je vous remercie parce que je pense que on avait besoin d'une petite mise à jour de ces chiffres.
Oui, sachant que puisque votre métier c'est la joaillerie, le deal le plus incroyable que nous ayons fait cette année, c'est dans la joaillerie.
C'est la fameuse usine dont on parlait avant de commencer.
Ouais.
Ben, je veux dire. Nicolas, le temps passe et je sais que vous avez beaucoup d'autres rendez-vous à mon grand dam, mais j'espère que nous aurons une V2. Je passe maintenant à mon crible qui sont des questions, si vous l'acceptez, un petit peu plus personnelles. La première de ces questions, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre carrière, vie professionnelle, personnelle, un échec? Qui est votre plus bel échec? Celui dont vous êtes le plus fier? D'une certaine manière, vous avez un petit attachement à cet échec. Et puis surtout, les enseignements que vous en avez tirés.
Bah non, mais toutes les PME dont j'ai parlé tout à l'heure, elles m'ont formé, mais enfin, elles m'ont coûté de l'argent. Hein.
Mm.
C'est-à-dire que le taxi pub, j'étais obligé de l'arrêter parce que ça a été interdit. La société européenne de composites, je l'ai revendue pour rien du tout parce qu'on a eu une crise de trésorerie systémique parce qu'un client nous a pas payé. Et la lettre de change n'était pas confirmée. Bon, et donc quand vous démarrez à 25 ans avec très très peu de capitaux personnels parce que ça n'était que des emprunts étudiants ou des prêts de love money ici ou là à l'époque, c'était l'époque tapis. Hein. Il n'y avait pas tous ces fonds de capital, hein. Il n'y avait pas la BPI. Et donc, le niveau des dettes personnelles commençait à monter, mais ça ne nous a pas empêché d'en refaire une autre. Et puis, ouais. Ça j'en ai connu beaucoup, hein, des échecs. Mais des échecs dont la contrepartie, c'est qu'à 30 ans, vous avez, à l'époque, c'était des francs, mais enfin, c'est comme si c'était des euros aujourd'hui, 700 000 euros de dettes, hein. Que vous remboursez ensuite avec vos petits salaires. Donc si, non ça j'ai vécu ça. Mais c'est évidemment ultra formateur. Hein. C'est ultra formateur. C'est formateur notamment sur le rapport à la peur. C'est-à-dire vous dites bah, même pas mal quoi.
On s'en sort.
Oh, bah, bien sûr, même pas mal.
Deuxième question, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment?
Je suis pas du tout dans le regret, moi. Donc, je ne sais pas du tout répondre à cette question-là.
Peut-être rien.
Pardon?
Peut-être rien.
Mais donc rien.
Alors, cette question, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce que vous trouvez beau au sens métaphorique, au sens esthétique? En plus, je parle à l'esthète.
Oui.
À l'amateur d'art.
Oui.
Mais aussi, évidemment.
Moi, je vois du beau partout. Honnêtement, vous êtes rue Berthollet, par exemple. Vous avez un boulanger. Au coin là-bas,
ouais.
Qui fait des pains de seigle qui font 70 centimètres de long. vous le connaissez?
Oui, très bien.
Chez Alexis. Hein.
Oui, très bien, j'y vais tous les midis quasiment.
Son pain est une beauté.
D'accord, mais c'est vrai que je sens que vous êtes un esthète. Enfin, que vous aimez le beau, en fait.
Oui, je vois. Oui, bien sûr, mais c'est très important, le beau. C'est très très important. Et d'ailleurs, on a monté, dans toute notre boîte à outils de conseils aux entrepreneurs, on a un Diac Design. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il se développe mieux. On a créé une communauté de 100 designers qui travaillent avec nous, et parce que je pense que très souvent les entrepreneurs, entrepreneuses des PME se rendent pas compte de la valeur à l'écart de laquelle ils passent quand ils s'intéressent pas à la pure beauté de leur usine.
Ouais.
À l'intérieur même de l'usine, la beauté de leurs produits, même leur logo. Quand vous regardez les logos des PME, quand même très souvent, vous dites non mais c'est pas possible.
Mmh.
il faut changer moi ça, quoi. Comment voulez-vous attirer les jeunes si vous avez un logo qui ressemble à un logo des années 50 avec une usine certes ultra productive mais des années 50, etc. Donc, je pense que dans l'équation de création de valeur, le sujet de la beauté est fondamental, hein.
Je suis d'accord.
Fondamental, bah oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas être d'accord avec votre métier.
Alors, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous enrage? Qu'est-ce que vous n'aimez pas voir? Ça peut être un comportement, ça peut être des objets, enfin...
C'est
quelque chose, la peur.
La peur des autres. Ça, je supporte pas. Que les gens aient peur à ce point, et se couvrent tout le temps... Alors, on peut avoir de la compassion pour la peur des autres, mais parfois on a le devoir d'être agacé par la peur inutile de gens qui sont normalement en position de devoir être courageux, quoi, tout simplement. Hein. Je pense que honnêtement, ça bloque beaucoup la France. Hein.
Et ça s'apprend, le courage ?
Le courage, ça s'apprend, oui. Oui, le courage, c'est quelque chose qui s'observe chez les autres, hein, et l'entourage, et qui contamine. Non, on peut tout à fait polliniser la France sur la question du courage, hein. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on fait aussi, nous, quand on fait tous nos événements pour héroïser les entrepreneurs. On les fait monter sur scène, pour que tout le monde entende. Hein, c'est fondamental. La communication chez nous, c'est pas une fonction support, hein, c'est un métier central, et dont l'objet est d'annihiler la peur des gens, hein, en diffusant effectivement une culture du courage. Mais c'est pas le courage au sens je vais à la mort, bon, pas du tout. C'est une culture du même pas mal. C'est une culture du tout est possible. C'est une culture du pourquoi avez-vous peur? Expliquez-moi.
Qu'est-ce qui va se passer?
Hein?
Quel est le pire scénario qui puisse arriver?
Mettez-vous dans le pire, et alors? Hein, et puis surtout, prenez conscience des conséquences sur vous-même, votre vie, votre quotidien, votre estime de vous-même, etc., si vous continuez d'avoir peur. Et à un moment, vous ne pourrez plus vous regarder dans la glace.
Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous plaît particulièrement, qui vous anime, peut-être que vous répétez, enfin qui est un peu votre citation fétiche?
Ah oui. J'en ai quelques-unes quand même, hein, dans l'environnement professionnel. Il y a haut les cœurs. Il y a ça c'est je sais
pas
le cœur ou les cœurs sont formidables, ouais. Les cœurs c'est merveilleux. Il y a Hardy Petit, hein.
OK.
Il y a Mort aux vaches.
Mort aux vaches.
Ah oui, Mort aux vaches.
Qu'est-ce que ça veut dire, Mort aux vaches?
Mort aux vaches, c'est merveilleux parce que justement Mort aux vaches c'est cette expression du cinéma français qui dit bien tout ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que les résistances inutiles, la bureaucratie, les gens. L'autre jour, j'ai entendu un entrepreneur qui m'a dit bon, le problème de la France, c'est quand même qu'il y a tous les matins la moitié des Français qui se lèvent pour faire chier l'autre moitié.
C'est pas mal dit.
Voilà. Et mort aux vaches, ça dit ça.
le Français aime bien emmerder le monde, ça c'est clair. Alors, deux dernières questions pour vous, enfin trois, pardon. Une croyance qui est controversée, celle-ci je l'aime bien aussi. Bon, on en a un peu parlé, parce que votre livre, finalement, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose que vous pensez, ou vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas en phase, on va dire les médias actuels en tout cas, que ce soit en France ou à l'international?
Alors, oui. Il y en a une qui est, on va dire, à la fois macroéconomique et macropolitique et macroidéologique. Hein, c'est, il faut travailler plus.
Il faut travailler plus.
Pas, ouais. On s'en sortira pas. Hein. On s'en sortira pas. Hein. Le problème, c'est que.
Il faut aimer travailler aussi, non?
Non, mais c'est surtout le travail, c'est la santé. Le travail, c'est le bonheur et tout. Et donc une société dans laquelle tout le monde revendique le passage le plus rapide possible à la semaine de 4 jours pour pouvoir préparer les 3 jours suivants. Les 4 jours étant considérés comme aliénants et les 3 autres jours étant équipés de pied en cap de matériel Décathlon pour vivre la vraie vie. C'est, pour moi, c'est une société horrible. Et la société que je souhaite, c'est une société vitale d'incarnation où 7 jours sur 7, on est dans l'exaltation de sa propre vie, quoi, hein, voilà, donc il y a des moments où on peut se reposer, mais sinon on a sa mission, on est sur Terre pour quelque chose, on est heureux d'être à sa place dans la production de quelque chose qu'on va ensuite transmettre. Et donc la société du non-travail, pour moi, c'est une catastrophe. Et de toute façon, l'État-providence français ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. On est dans une situation aujourd'hui de crise de l'équilibre même de l'État-providence qui dure maintenant depuis tant d'années. Hein. Et je sais bien que grande majorité des Français ne veut pas l'entendre, puisque vous me posez la question. Donc moi, je le dis.
Dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un ou deux livres, enfin un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a impacté, à part le vôtre bien sûr, parce que je sais quand on écrit c'est forcément une aventure, mais est-ce qu'il y a un livre qui vous a vraiment touché, dont vous pourriez nous parler, pourquoi est-ce que ça a été un livre aussi important pour vous?
Il y en a plein parce que je lis tout le temps moi, donc c'est très difficile de se souvenir de ce qu'on a lu il y a 6 mois quand on est absorbé par le dernier.
Non, mais pas forcément il y a 6 mois, plus vraiment un livre fondateur.
Il y en a un que j'aime bien pour rester cohérent avec notre conversation, qui est le livre du prix Nobel Edmund Phelps, qui s'appelle La prospérité de masse. Parce que ce livre, en fait, il dit tout ce qu'on vient de se dire. Donc c'est un prix Nobel d'économie américain, et qui dit une société n'est équilibrée que si elle engendre constamment par ses valeurs et ses institutions le dynamisme entrepreneurial. Donc c'est toute la théorie du dynamisme. C'est toute la théorie de au fond de la traversée énergétique dans une société complexe contemporaine par l'intermédiaire de ce qu'il est convenu d'appeler les entrepreneurs. Hein. Et donc en fait c'est la théorisation de ce que fait la BPI. Et d'ailleurs à la fin de ce livre, pourtant c'est un économiste libéral américain, hein, il dit il faut des banques publiques qui soient capables de faire ça. Hein. Et un très très beau livre. Très beau livre parce que bon, il en profite évidemment pour faire un gros travail historique, hein, notamment sur la manière dont dont l'économie s'est développée à partir du 19e siècle, autour de la figure de l'entrepreneur. Et ça c'est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant parce que ça met en perspective et ça crée un récit quand même très, 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 très construit. Et ça permet, alors ça, il le dit pas, mais ça permet de rappeler que quand les caisses d'épargne ont été créées, c'était, je crois, en 1830, quelque chose comme ça, ou en 1828, dans ces années-là. Dans le texte de création des caisses d'épargne, il est dit notre rôle, hein, c'est d'exciter la société française. Extraordinaire, hein. C'est dans les statuts créatifs de création des caisses d'épargne françaises partout dans les territoires. Notre rôle, c'est d'exciter la société française.
Et ben maintenant, c'est peut-être le rôle de la BPI.
C'est complètement notre rôle. Exactement.
Excitons la société française. Nicolas, je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Ma dernière des dernières questions, c'est si jamais on veut vous suivre, vous êtes présent sur LinkedIn notamment.
Oui.
Donc on peut suivre vos aventures. Bien sûr, suivre la BPI sur le site, je mettrai tous les liens. Est-ce qu'il y a un autre média, levier que vous avez envie de mettre en avant? C'est le moment.
Bah, on a créé un média, nous, qui s'appelle Big Media.
Ah, je sais bien.
Voilà, donc Big Media, vous pouvez suivre Big Media, dans lequel vous allez nous retrouver. Vous pouvez suivre le site de la French Fab. Qui est très très actif, le site de la French Touch, qui est très actif, le site de la French Care, très actif, puisqu'on crée des tribus, hein, les entrepreneurs étant une matière émotionnelle infinie, on les construit en tribus, chaque tribu a son hymne, ça vous saviez pas, hein.
Non, je savais pas, je savais qu'ils avaient chacun leur coq.
Ben, chaque coq a son hymne, donc je vais vous envoyer les hymnes,
et
notamment
bah
puisque vous êtes Fab.
Je suis French Fab,
et
alors
Touch.
Oui, et puis j'ai même été un peu tech à un moment parce qu'on fait de l'impression 3D, etc. Donc moi je suis versatile.
Fab et Touch.
Merci mille fois,
merci
Nicolas.
Beaucoup.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.